Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Colombie, cinquième partie. Pendant toute la durée de notre séjour, on profite vraiment de chaque attrait de cet endroit. Et on mène un peu une vie de Robinson, en fait. C'est assez chouette, on fait tout à pied. On part pour de longues balades sur la plage avec nos surfs sous le bras pour trouver des spots de surf. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est devant la maison que c'est le plus agréable, ce qui facilite quand même les choses. Les filles passent beaucoup de temps sur la plage à jouer. Swan, elle fait ses acrobaties. Les petites, elles jouent beaucoup à construire des choses avec du sable, des bois flottés. Et comme on se trouve juste à côté d'un bras de rivière, on voit aussi le paysage qui change sans cesse et le bras de cette rivière qui change sans cesse avec la montée, les marées en fait. Et quand la marée est haute, le bras de rivière s'efface et quand elle est basse, ça creuse comme un canal. Et là, les enfants sautent des bords, creusent des tunnels. Il y a même un cocotier qui est tombé qui fait comme un pont. Et donc, elle s'amuse à marcher dessus, sauter, enfin... C'est vraiment la magie de jouer juste avec les éléments naturels autour de soi. Il y a aussi tous les chiens de la communauté qui sont par là et qui viennent jouer avec les enfants. Ils sont dans l'ensemble très gentils, pas du tout méchants, mais par contre ils sont assez excités. Et les enfants jouent beaucoup avec eux, là où nos enfants en fait n'ont pas l'habitude des chiens. Et il y a Violette surtout qui n'était pas très à l'aise avec les chiens. June non plus d'ailleurs, et en fait elles se sont habituées à interagir avec ces chiens en leur lançant des bâtons, et ce qu'il faut voir c'est que ces chiens-là ils jouent avec ce qu'ils trouvent sur la plage, donc avec des moitiés de noix de coco ou encore des crabes. Daniel joue beaucoup de guitare, on avance aussi sur le homeschooling pour finir le programme scolaire, et puis on passe du temps à bouquiner dans les hamacs et à regarder tous les oiseaux qui nous entourent.
Bien. Très dur.
On s'angoisse.
Ah, Pierre. Tu sens monter le... C'est pas l'angoisse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit déjà?
L'anxiété.
Ah, fou. Dur.
Ce qui est fabuleux de voir aussi la plage devant chez nous, c'est que les enfants, en particulier Violette, peuvent nager tout seuls s'ils décident dans la journée d'aller faire un plouf. Il n'y a pas de problème, on les voit et la plage est assez safe. Donc ça, c'est super agréable pour elles d'avoir cette autonomie, cette indépendance. C'est juste à partir de la tombée de la nuit où il faut qu'on fasse attention. Loël nous a bien expliqué de toujours sortir avec une lampe parce qu'il y a quand même des serpents qui se baladent et donc il faut faire attention à ne pas leur marcher dessus. On a aussi toute une fratrie, alors c'est essentiellement des petites filles qui viennent chercher nos filles à la maison pour jouer avec elles. Et on les connaît, enfin on les a rencontrées parce que leur grande sœur, c'est elle qui est venue tresser nos enfants. En fait, dès notre arrivée dans la maison, Swan avait demandé à Loël s'il n'avait pas un contact ou si on pouvait demander à une jeune fille de la communauté de venir lui tresser les cheveux. Elle rêvait d'avoir la tête toute nattée. Et il nous a mis en contact avec Mélissa, dont il connaît très bien la famille. Et Mélissa, ils sont 7 enfants, je crois que c'est 6 filles et un garçon. Et donc quand Mélissa est venue pour tresser la tête de Swan, elle est venue avec 3 de ses petites sœurs qui sont venues chercher un peu Violette et June pour jouer sur la plage. À partir de ce moment-là, elles viendront assez régulièrement à la maison pour chercher nos filles et jouer avec elles. Et puis un jour, elles sortent les perles. On a des perles pour faire des bracelets. Donc elles feront un atelier bijoux. Et puis, il y a d'autres fois où on a récupéré, nous, des gros bois flottés qui sont sur la terrasse. Et on a les Posca, donc nos enfants les décorent régulièrement au Posca. Et là, il y a des ateliers avec tous ces enfants de dessin sur du bois flotté. Et ça, c'est vraiment super parce que les filles ne se comprennent pas. Les petites de la communauté ne parlent pas l'anglais. Et nous, nos filles parlent un tout petit peu espagnol, mais pas suffisamment pour engager de grandes conversations. Et c'est vrai que le dessin, ou en tout cas le côté loisir créatif, avec les feutres ou les perles, ça permet de partager une activité ensemble sans forcément avoir une conversation très soutenue. Nos filles réalisent aussi à quel point ça enchante ces petites filles de participer à ces activités parce qu'elles n'ont pas ces choses-là chez elles. Et donc à la fin de notre séjour, elles donnent la boîte de perles qui nous reste. Donc, on est sur la fin de la boîte et puis de toute façon, notre voyage est bientôt fini. Mais elles l'offrent à la fratrie de petites filles parce qu'elles se disent qu'elles en feront meilleur usage qu'elles. Il y a une autre raison de notre venue dans cet endroit particulier de la côte Pacifique, c'est qu'à cette période de l'année, on sait qu'il y a la migration des baleines et on aimerait bien faire une sortie pour aller essayer de les observer. Donc on s'organise avec une femme du village, Viviane, qui s'occupe de coordonner des sorties bateau. Et puis pour le lendemain, elle nous organise un bateau qui va venir nous chercher à 8 heures et nous emmener tenter d'observer les baleines. Elle insiste bien sur le fait qu'on n'est pas sûr d'en voir. Évidemment, tout ça, c'est soumis aux aléas de la météo. Et effectivement, le lendemain matin, quand on se réveille, ouah, le ciel, il est super gris. On sent qu'il y a un air de gros grains. Mais on envoie un message WhatsApp à Vivienne. Elle dit que c'est maintenu. Mais par contre, que le bateau ne partira pas à 8 heures, mais viendra nous chercher à 9 heures. Et puis à 9h, elle nous dit finalement ce sera à 10h. Et quand le bateau arrive à 10h, on a déjà beaucoup de mal à monter dedans. Et là, on sent le vent qui arrive, les vagues. Et puis, en fait, ils nous font débarquer. Et là, on a du mal à comprendre ce qu'ils nous expliquent. Et Vivienne nous rejoint du village 5 minutes plus tard en nous expliquant qu'on peut très bien sortir, que les pêcheurs là sont prêts à nous emmener. Mais eux, ils ont un vrai doute sur notre capacité à profiter de l'excursion sans tomber malade. Parce qu'il va y avoir des grosses vagues, des gros creux, et on va probablement avoir un gros mal de mer. Alors nous, clairement, on n'a pas du tout envie d'être malade sur le bateau. Et puis on a pris l'habitude de s'adapter, on n'a pas de contraintes, donc on dit pas de soucis. On revient à la maison, et puis elle nous tiendra au courant dans la journée si la sortie peut se faire dans l'après-midi. Puis si c'est pas le cas, elle se fera le lendemain. Entre-temps, il s'est mis vraiment à pleuvoir des cordes, donc on se dit qu'on a bien fait de ne pas y aller. Et moi, je décide de profiter de cet instant de pluie avec les enfants pour aller au terme, tester les bains chauds. Et Daniel, lui, il rentre à la maison, il n'a pas envie de se mettre dans ses bains naturels. Donc on passe 2 heures au bain chaud, on rentre à la maison, et puis en fin de matinée, moi, je rejoins Daniel qui est à l'eau et qui est en train de surfer devant la maison. Je le rejoins, je prends quelques petites vagues et puis à un moment, on remonte au pic et là, on voit arriver tout un banc de dauphins qui se met à sauter devant nous. Ils sont à quelques mètres de nous, donc on est assis sur nos planches, on les regarde, ébahis, et puis après, on se met à ramer pour essayer de les rejoindre. Alors évidemment, ils vont beaucoup trop vite, mais là, c'est une émotion qui est vraiment très intense. C'est quelque chose que j'avais vécu en Australie et je touche vraiment du doigt l'émotion que me procurent ces dauphins. Les dauphins, c'est vraiment un mammifère qui m'émeut. J'ai pas d'autres mots. Dans l'après-midi, Vivienne nous renvoie un message en disant que c'est bon, on va pouvoir sortir. Donc on se prépare, on monte sur le bateau et surtout on se dit tous qu'on espère qu'on va en voir. Du fond du cœur, on croise les doigts mais on n'a vraiment aucune certitude. Et puis on part pour 2 heures, c'est assez agité. D'ailleurs assez vite, Violette elle a un léger mal de mer qu'elle aura pendant toute la sortie. Mais je suis époustouflée parce qu'elle ne dit pas grand-chose. On voit bien à son visage qu'elle n'est pas très bien. Et elle se concentre, on voit qu'elle veut vraiment gérer ça parce qu'on va vivre quelque chose d'unique. Et elle ne veut pas gâcher le moment, ni pour elle, ni pour nous. Et je suis impressionnée par la manière dont elle prend sur elle. Au bout d'une demi-heure de navigation, ce qui est assez court, le capitaine il identifie les geysers des baleines qui sont dans l'eau. Donc il se dépêche et il rejoint le point. Il ne s'approche pas trop parce que ça peut être dangereux. Et là, on voit nos premières baleines qui nagent. Elles sont trois. Et on voit la queue, on voit de temps en temps le dos. C'est complètement majestueux. Mais c'est vrai que ça nage à une allure folle. On s'en rend pas compte et puis elles disparaissent et on ne les revoit plus. Et là, on repart pour une bonne heure et quart de quête de baleines et on ne les voit pas. Et là, on commence à être un peu déçus parce qu'on n'en a pas assez profité. Et puis le capitaine dit, bon, ben, on va rentrer tranquillement au village. Et sur le chemin du retour, là, il y a un nouveau groupe de baleines. Ils sont cinq à peu près. Et on s'approche et là, c'est encore un spectacle incroyable de voir leur queue immense claquer sur l'eau et ce dos qui n'en finit pas. Ce sont des animaux vraiment énormes. On a bien conscience qu'on vient de vivre une journée extraordinaire où on a vu de si près cette faune marine. Et puis les baleines, c'était la première fois de notre vie pour nous tous et ça nous marque profondément. Alors cette journée d'apothéose, elle marque aussi le début d'une dégradation parce qu'en fait, on rencontre un problème de santé avec Swan. Elle commence à avoir mal au ventre après cette journée en bateau et puis elle va s'allonger parce que les douleurs s'intensifient. Elle commence à avoir un gros dérangement intestinal, elle va beaucoup aux toilettes et puis des vomissements. Moi, je prends sa température, je vois qu'elle n'a pas de fièvre, donc je me dis, elle se fait une bonne tourista, c'est pas grave, ça va passer, en 48 heures, elle sera remise. Bon, la nuit, elle se passe pas bien, et puis le lendemain matin, Swan, elle est toujours aussi mal, on voit pas une once d'amélioration dans son état. Je crois qu'on passe la journée toutes les deux, elle assise sur les toilettes, moi devant sur une chaise et je mets un coussin sur mes genoux parce qu'en fait elle n'a pas dormi de la nuit et elle est à moitié couchée quoi, sur les toilettes, la tête sur mes genoux et je lui masse le dos et je lui explique que ça va aller, j'essaie de la rassurer, de la soutenir au maximum, mais c'est vrai qu'on est un petit peu perdu parce qu'on voit qu'elle commence à être très très mal. Évidemment, entre temps la fièvre est montée pendant la nuit, elle est montée jusqu'à 40, donc il y a une forme d'inquiétude qui est grandissante chez nous. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on a pas mal épuisé notre trousse à pharmacie depuis le début du voyage, et notamment pour tout ce qui est trouble intestinal. On n'a plus les médicaments qui permettent de contrer la douleur en cas de forte diarrhée ou dérangement. Et on ne sait pas trop quoi faire, quoi. On rationne les comprimés qu'on a, je lui donne du spasson également, et puis je commence à être un peu désespérée parce que Swan, elle souffre énormément. Donc là, je vais taper à toutes les portes. J'en parle à l'OL, au voisinage, voir s'il n'y a pas des remèdes de grand-mère qu'on peut utiliser. Je leur demande même s'il n'y a pas un marabout ou un sorcier dans le village. Parce qu'en fait, concrètement, il n'y a pas de centre médical dans le village. À Nuki, il y a un centre médical qui est un peu plus costaud, mais l'OL me dit que vraiment, on va perdre du temps que d'aller là-bas et que dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse aller à l'hôpital à Medellín. Sauf que Medellín, ben, pour trouver un vol retour en dehors de celui qu'on a trouvé, c'est quasi impossible dans l'immédiat. Bon, de toute façon, Swan, elle est tellement mal qu'elle ne peut pas marcher, elle est affaiblie. Donc on prend tous les remèdes du voisinage. Il y a le restaurant d'à côté qui nous fournit une plante du jardin en nous disant de lui donner en infusion. Alors ça sent un peu l'herbe, hein, la marijuana, mais ça n'en est pas. On lui donne, ça ne fait pas grand-chose. Et puis la dame qui vient aussi faire un petit peu de ménage tous les jours dans la cabane lui prépare une boisson avec de l'eau chaude, du citron et du bicarbonate de soude à boire. Et ça lui fait du bien, ça calme les douleurs pendant 2 ou 3 heures. On refait une nuit terrible. En fait, chaque nuit, j'ai dormi avec Swan dans mon lit parce qu'elle avait besoin, elle pouvait pas être toute seule et elle commence à rentrer dans un peu des délires de fièvre et puis un peu de dénutrition. Alors, on fait très attention qu'elle se déshydrate pas. Donc, moi, je lui donne à boire très régulièrement, mais ça commence vraiment à être inquiétant. J'essaye de prendre un rendez-vous avec l'assistance médicale de l'assurance qu'on a prise pour le voyage. Mais le créneau qui m'est donné, c'est le surlendemain en fin de journée. Donc, je prends la trousse à pharmacie, je la vide sur le lit, je regarde tout ce qui reste. On a deux antibiotiques et il y en a un qui semble faire l'affaire. Je regarde un peu sur Internet, ses effets, sa composition. Le problème, c'est qu'on est en décalage horaire avec la France, donc on ne peut pas appeler nos copains médecins, c'est en plein milieu de la nuit. Donc, je me dis, allez, on lui donne l'antibio, on se met d'accord avec Daniel, on lui donne et on se dit bah, que ça va forcément l'aider. Et effectivement, la troisième nuit est bien meilleure. Swan ne se lève que trois fois. Elle arrive à dormir davantage d'affilée. Alors, elle mange toujours rien. Ça fait 3 jours qu'elle n'a rien avalé. Mais elle boit. Elle n'est pas déshydratée. Et elle commence à retrouver un tout petit peu de force. On a traversé ces 3 derniers jours de séjour. Moi, dans un tunnel. Daniel a géré la logistique et puis les petites, hein, en espérant tous les deux que Swan irait mieux et surtout qu'elle récupère assez de force pour pouvoir faire le voyage, donc l'heure de bateau puis l'heure d'avion pour rentrer à Medellín avant de pouvoir accéder à un système de santé qui soit suffisamment costaud. Donc c'est vrai que le jour du départ, quand on voit que Swan peut marcher à nouveau, ce qui n'était pas possible sur les 3 derniers jours, qu'elle arrive à porter un petit sac à dos, on n'a qu'une préoccupation, c'est de pouvoir faire le trajet jusqu'à Medellín et pouvoir se poser dans un appartement qu'on a réservé en ville pour 4 jours et récupérer de cet épisode de santé un peu difficile. On a un petit pincement au cœur de quitter cet endroit. Daniel et moi, on a vraiment adoré passer ce séjour dans cette communauté à l'autre bout du monde. Et ça nous a tellement plu qu'on a même regardé pour pouvoir investir dans le coin. Et Loël nous a fait visiter un endroit qui serait potentiellement à l'achat. Donc c'est une cabane en bois sur pilotis dans un jardin exotique incroyable, assez proche de la mer. Et il promet de nous tenir au courant de la potentielle mise en vente du restaurant qui est à côté de la maison où on est. C'est un restaurant qui est tenu par un Chilien qui est cuisinier et qui fait de la cuisine vraiment délicieuse, un peu plus occidentale. On est allé dîner une fois dans son restaurant et c'était un régal. On a mangé un tartare de poisson à tomber par terre en entrée et puis un poisson cuit avec une purée de pommes de terre délicieuse. On a tous super apprécié, que ce soit les grands ou les petits. Et ce Chilien va mettre en vente son resto et là, pour le coup, il y a un potentiel de fou parce qu'il donne sur la mer, sur la plage. Là, on se ferme à aucune opportunité parce qu'on se dit pourquoi pas, on n'est pas du tout sur les prix européens et on a un petit pécule de côté. On s'imagine peut-être pouvoir gérer quelque chose à distance et puis venir passer 3 mois par an dans cet endroit. L'objectif étant de trouver quelqu'un comme Loël qui soit un concierge un peu de confiance, qui puisse gérer les locataires sur place quand on n'est pas là. Ça me fait beaucoup sourire quand j'y pense, parce que depuis qu'on est rentré en France, Loël nous a envoyé un message pour nous informer de la vente du restaurant, auquel on n'a pas donné suite, évidemment, parce que c'est quand même loin, et puis il faut s'en occuper, et on se rend compte qu'avec notre vie, on ne peut pas être partout. Bon, pour revenir au trajet retour jusqu'à Medellín, on prend le petit bateau, et Loël a prévenu le capitaine que Swan n'est pas très bien et qu'il faut qu'on puisse faire la traversée assez vite. Donc il met les gaz, mais quelque chose de malade. Et sur le dernier virage avant de rentrer dans le petit port à Nuquy, il va tellement vite que son second, il est éjecté du bateau dans un virage. Nous, on a peur. Moi, j'ai peur qu'il se soit pris cogné en fait sur un bord du bateau. Et en fait, pas du tout. On le repêche. Donc les gars, ils sont morts de rire. Mais nous, on se dit que ce sont quand même des gens qui sont pas toujours très très prudents. Notre vol qui était prévu à 13h est décalé à 14h, puis 15h. Enfin bon, on attend quand même un long moment avant d'embarquer dans l'avionetta. Et on est un petit peu moins conciliant qu'à l'aller parce que bah, Swan, elle fait des allers-retours aux toilettes et elle est pas bien. Et on se dit que on commence à avoir vraiment hâte d'être arrivé à destination. Se fait sans encombre, pas une seule turbulence, le temps est beaucoup plus clément qu'à l'aller. Et puis on finit par arriver à Medellín, on prend un taxi et on va s'installer dans notre appartement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu? Venez écouter l'épisode 37 sur notre séjour à Medellín. À bientôt !